Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 9. Pratiques alternatives, une trajectoire de la transition.
Dans le dernier épisode, nous avons vu que de nombreux acteurs œuvrent à faire changer les pratiques. Les négociants, les syndicats viticoles, les associations, mais aussi les collectivités, favorisent la sensibilisation et l'accompagnement au changement de pratiques. Une grande diversité de techniques existe pour diminuer l'utilisation des pesticides qui sont effectivement plus ou moins visibles et plus ou moins connues. Mais comment fonctionnent ces pratiques alternatives et comment sont-elles valorisées ? Nous vous emmenons donc dans cet épisode à la rencontre des viticulteurs qui mettent en place des pratiques alternatives.
Quand moi je suis revenu il y a à peu près 10 ans, on était principalement en culture raisonnée. Ce qui était déjà mis en place depuis pas mal d'années, c'était la partie raisonnée aux petites doses, c'est-à-dire déjà une sensibilité à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires.
Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot.
Donc en tous les cas, c'est d'avoir une compréhension maladie cryptogamique de manière très fine et intervenir lorsqu'il était nécessaire et avec la dose vraiment nécessaire. Voilà. Donc c'était déjà une réduction, c'est déjà une volonté d'aller dans le sens un peu plus écoute du vignoble. Et aujourd'hui, moi, ma volonté, elle est plus dans la partie encore plus agronomique et essayer donc d'utiliser que des produits minéraux de manière à lutter contre les maladies cryptogamiques.
Beaucoup d'exploitations commencent par des modes de culture raisonnés qui visent à réduire l'utilisation de pesticides dans le cadre de la lutte contre les nuisibles. Cette réduction peut également se réaliser en quantité et en diminuant la fréquence des traitements. Elle peut aussi passer par la réduction en priorité des produits considérés comme les plus dangereux, tels les CMR, qui signifient cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
Oui, alors le réseau phare, bon, c'était, je ne sais même plus si ça existe encore aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, c'était les prémices de l'agriculture raisonnée.
Christophe Chetty, viticulteur en conversion bio au château Mercier.
Et ça nous a permis, on a été les premiers à s'interdire certains insecticides qui sont interdits complètement aujourd'hui, les insecticides à spectre large, qui sont entre autres les néonicotinoïdes et autres cochonnets dont on entend pas mal parler aujourd'hui, parce que justement ils n'impactaient pas seulement les insectes pour lesquels on voulait traiter, mais aussi d'autres ravageurs. La diminution des intrants de manière générale, et donc des produits de traitement ou des engrais, fait partie aussi de la diminution de notre impact environnemental. Donc on se compare entre collègues sur ce domaine-là, et si d'une année sur l'autre, on a notre quantité de produits de traitement qui a réaugmenté, eh bien on essaie de comprendre pourquoi, parce que la pression était par exemple particulièrement forte, et dans ce cas, on va les comparer par rapport à une année où la pression était aussi forte, voir si on a quand même fait mieux que 4-5 ans avant où on avait aussi une pression importante. Et on essaie de s'améliorer dans ce sens-là. Ou alors, aussi, on regarde pas seulement la quantité de produits, mais la dangerosité de ces produits. On regarde si on utilise plus de produits qui sont réputés moins nocifs et pour l'environnement et aussi pour l'utilisateur ou le voisin. Ben on sera, dans ce cas, on va pouvoir accepter peut-être d'en mettre un petit peu plus. Enfin, peut-être des produits un peu moins efficaces, mais qui vont garder un impact environnemental plus faible, de manière à comparer ce qui est comparable.
Les viticulteurs utilisent plusieurs types de traitements. Les herbicides pour désherber, les fongicides pour lutter contre les champignons et les maladies comme le mildiou, et enfin, les insecticides, pour lutter contre les insectes parasites tels que la flavescence dorée. La solution réside donc dans la mise en place de traitements alternatifs, comme en passant par des produits de biocontrôle, moins nocifs pour la santé et l'environnement. En agriculture biologique, le soufre et le cuivre remplacent également les produits de synthèse dans la lutte contre les maladies. Mais d'autres techniques peuvent également être mises en place pour réduire les intrants comme le désherbage mécanique ou la confusion sexuelle.
Oui, ici, on a choisi et on a la chance que des voisins se sont engagés avec nous dans cette optique de pratiquer ce qu'on appelle la confusion sexuelle. C'est-à-dire que on répartit dans les vignes à distance régulière des petites capsules qui vont dégager des hormones de manière à tromper un insecte pour qu'il ne puisse pas venir se féconder sa femelle. Et l'idée, c'est de repousser cet insecte en dehors de nos vignes par ce biais-là, parce qu'il ne peut pas se reproduire dans nos vignes. Et pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait au moins une dizaine d'hectares. Et là, aujourd'hui, on a un bloc d'à peu près avec 3 ou 4 voisins. On est à peu près une vingtaine d'hectares d'un seul tenant qui sont sous cette protection-là. Et depuis la première année, ce n'était pas trop efficace. Et maintenant, justement, depuis 3-4 ans qu'on le fait, on a une belle efficacité et ça nous permet de réduire et de ne plus traiter contre ces insectes.
Et ça nous fait diminuer quoi, 2-3 passages, enfin, ça dépend après des années.
Alors, en fonction des années, en plus ici on est sur un secteur, ça, on l'a appris en faisant les contrôles pour la confusion sexuelle, on est sur un secteur où il y a une très très forte pression d'Odémis, donc ça nous évite au moins 2 insecticides par an sur ce secteur.
Pour réduire la quantité de produits, les viticulteurs peuvent également utiliser des outils d'aide à la décision qui permettent de mieux connaître l'état de la vigne et d'adapter les traitements au plus près des besoins.
Alors nous, la mise en place de l'OptiDose, donc il y a quelques années, c'était donc la volonté de réduire les doses de manière drastique, soit 50%, moitié dose, ou voire plus, en fonction d'une part de la pression de la maladie et également les fréquences, de diminuer les répétitions de traitement et d'avoir une efficacité claire et significative dans nos passages. Et ça va surtout d'une meilleure connaissance scientifique des maladies, de l'interaction vigne et de ces maladies cryptogamiques. Donc c'était vraiment améliorer nos connaissances, augmenter nos performances techniques grâce à des conseillers avec qui on travaille. Donc ça, c'était vraiment mieux connaître toutes ces maladies-là et les cycles pour être au maximum pertinent sur notre travail. Après l'évolution qu'on a eue sur ces pratiques là, c'était aussi la partie prophylaxie, c'est-à-dire de dire on va plus loin, on va aussi adapter la conduite de la vigne pour encore plus diminuer les doses et augmenter l'efficacité. Donc c'était ce rapport là qui était important.
D'autres gestes techniques, comme le réglage des pulvérisateurs, permettent également de réaliser des économies de produits non négligeables.
OptiDose, ça optimise la dose du traitement, c'est-à-dire que toute la dose que l'on met, on va la mettre bien sur la vigne.
Laurent Bernos, directeur du service vigne et vin à la Chambre d'agriculture de Gironde.
Sauf que si vous faites OptiDose et que vous avez votre manche qui vous l'envoie vers le ciel, ça ne marchera pas. Et donc, il peut y avoir des accidents. D'où l'intérêt de ce réglage. Donc, il faut vraiment différencier le contrôle obligatoire du réglage qui n'a rien d'obligatoire. Mais en fait, c'est une condition nécessaire pour avoir une bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas facile, hein, il faut bien le reconnaître. Et c'est aussi pour ça que le viticulteur, des fois, ne le fait pas parce qu'il ne se sent peut-être pas capable de le faire. C'est pour ça que dans le cadre des formations, on fait des formations en commun pour tous autour du pulvérisateur pour trouver les solutions. Et certains aiment ça et d'autres n'aiment pas. Hein. Il y en a qui aiment les voitures, d'autres pas. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas facile à faire. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre, mais c'est indispensable. C'est pour ça qu'on met en place ces formations, on va former des conseillers aussi pour faire ça. Si on peut déjà travailler avec tous les pulvérisateurs existants, les optimiser, éviter toutes les dérives qui partent dans l'atmosphère, eh bien, ça sera déjà un grand pas. Je pense que sans aller faire des dépenses, on peut arriver à améliorer grandement les pratiques. Et c'est pour ça que je me bats là-dessus, parce que c'est important. Ça ne sert à rien de faire dépenser de l'argent aux viticulteurs. On peut très, très bien travailler avec des outils qui sont bien entretenus. Il y a peut-être quelques modifs à faire, mais un bon réglage, ça suffit. Et ça, déjà, ça pourrait nous éviter pas mal de problèmes.
Ces pratiques sont parfois valorisées par des certifications ou des labels qui garantissent au consommateur une qualité de produit ou qui le renseignent sur les pratiques mises en place dans la production. Mais comment s'y retrouver dans tous ces labels ? Nous vous laissons découvrir les certifications ISO 14001 et TerraVitis ainsi que Haute Valeur Environnementale.
Je me suis engagé dans le premier groupe. On appelait le groupe pilote qui a mis en place pour la première fois donc en Gironde le système de management environnemental en vue d'une certification ISO 14001, qui est une certification internationale pour le management de l'environnement. Donc là, c'est une démarche qui est un peu plus lourde au niveau d'une entreprise comme la nôtre, mais qui a le mérite de prendre pas mal de recul par rapport à l'ensemble de notre impact environnemental. Ça va aller depuis la petite tache d'huile sous un tracteur qu'il faut savoir gérer correctement, ne pas laisser s'écouler et pénétrer dans le sol, jusqu'à la consommation d'électricité, la gestion des effluents, le tri systématique et efficace de tous nos déchets, qui théoriquement est une obligation. Mais... Et donc on va, tous les ans, on va revoir quel est notre impact sur l'environnement et essayer de s'améliorer. C'est une boucle d'amélioration continue.
La certification TerraVitis. Ça, c'est une certification qui est apparue il y a quelques années.
Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde.
Justement, quelques viticulteurs ont bien vu, se sont bien rendus compte de la demande du consommateur et se sont mis autour de la table en réfléchissant sur des pratiques qui éviteraient l'utilisation moins importante de produits phytosanitaires et de pratiques polluantes. Donc cette réflexion a été menée et a été mise sur un cahier des charges ce cahier des charges détermine des produits qu'on peut utiliser et d'autres qu'on ne peut pas utiliser. L'utilisation de CMR, par exemple, est tolérée, mais justement, on incite à ne plus les utiliser. On les encadre énormément. Les pratiques d'entretien du sol, justement, sont encadrées aussi, avec des obligations de laisser de l'herbe à certaines périodes de l'année. HVE est aussi une certification qui est ministérielle, celle-là, qui encadre donc tout ce qui est utilisation de produits, qui va être le bilan de ce qui se passe sur une propriété. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui vont prendre en compte tout ce qu'on a fait dans l'année comme utilisation de produits phyto, mais également respect des haies, respect de la nature, justement enherbement des vignes, diversité aussi du paysage, c'est-à-dire que on est noté sur une diversification. À partir du moment où ce qui rend fragile une exploitation agricole dans son ensemble, c'est la monoculture.
En effet, on a 90% de nos viticulteurs qui sont soit bio, soit HVE, donc quasiment tout le monde.
Karine Galante, responsable projet à la coopérative des vignerons de Buzet.
Sauf qu'en fait, ce n'est pas la finalité du tout, quoi. Nous, l'objectif, au départ, on les a fait certifier HVE, parce qu'en effet, là aussi, il y a une demande du marché. Sauf qu'en fait, la certification HVE, elle n'a absolument rien fait changer à leurs pratiques, puisqu'ils avaient déjà intégré ces pratiques, mais plus dans l'idée de la politique de la coopérative et d'essayer quand même de faire avec les pratiques les moins impactantes sur l'environnement, ou en tout cas les plus favorables à la préservation de l'environnement. Et donc, j'allais dire, le HVE, c'est le... le certes, la petite cerise sur le gâteau qui fait que ben oui, tout ce qu'on a fait avant, finalement, c'est facile d'être HVE. Mais ce n'était pas la finalité en soi. On n'a pas fait tout ça en se disant c'est pour être HVE au bout. Si on a fait tout ça parce que ça nous permet de répondre à des attentes de la société. Et il y a un côté aussi assez, assez fierté des viticulteurs de mettre en avant tout ce qu'on peut faire en termes de préservation de la biodiversité, etc. Il y a quand même un agribashing assez important et il y a aussi ce côté de pouvoir dire ben, oui, mais on est aussi fiers de mettre en avant la nature avec laquelle on travaille tous les jours, etc. Quoi, l'environnement, ça fait partie quand même de leur outil de production, j'allais dire, quoi, de leur outil de travail. Voilà.
Enfin, l'un des labels les plus contraignants et les plus connus est celui de l'agriculture biologique. Celui-ci, contrairement à Terra Vitis ou HVE, ne considère pas les pratiques globales de l'exploitation mais se concentre principalement sur l'interdiction des produits de synthèse. Cela ne signifie pas pour autant que les viticulteurs ne traitent pas, puisqu'ils utilisent du cuivre ou du soufre pour lutter contre les maladies, mais surtout, il ne s'agit pas d'opposer ces labels mais bien de considérer la complémentarité entre eux.
La plupart des diagnostics conversion que je fais à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont déjà en HVE3.
Sylvain Friès, conseiller en viticulture biologique à Agrobio Gironde.
Et ils sont passés la plupart du temps par d'autres labels et qui ont fait cette progression-là. Effectivement, ces labels-là peuvent être à tremplin. Après, la différence qu'il y a entre ces labels et le bio, pour moi, il n'y a quasiment pas de rapport parce que les labels, que ce soit HVE, Terra Vitis, tout ça, c'est des certifications d'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui est certifiée. Alors que le label bio, ça va être le produit qui va être certifié. C'est complètement différent. Là, on a une garantie sur le produit, comme quoi il n'y a pas eu de pesticides, de synthèse. C'est le produit qui est labellisé. C'est des labels assez complémentaires à mon sens, dans le sens où les labels HVE3 vont dans le sens de la biodiversité. Par exemple, ils ont un pilier où pour avoir des points, ils ont besoin de la biodiversité maximum, des haies, des aménagements agroécologiques, ce qui n'est pas obligatoire, par exemple, en bio. Donc, pour moi, ils sont tout à fait complémentaires. Et dans ces labels-là, il y a aussi, la plupart du temps, une obligation de progrès, ce qui n'est pas le cas en bio. Donc pour moi, effectivement, il y a une complémentarité évidente.
Valorisables auprès des consommateurs ou pour souligner le travail parcouru, les labels sont divers et variés et nous informent sur les pratiques des viticulteurs. D'autres labels existent, tels que vegan, pour indiquer qu'aucun produit issu d'exploitation animale n'a été utilisé. Ou encore Déméter, qui répond au principe de la biodynamie. Au-delà de ces pratiques reconnues, des exploitations expérimentent de nouveaux modes de production qui tentent de repenser l'agriculture de façon globale et cyclique. C'est le cas de l'agroforesterie ou encore de l'agroécologie, qui vise à réintégrer les fonctions des écosystèmes au sein du système de production.
La vigne, il faut bien voir que c'est une monoculture. Donc en fait, il y a un seul support pour les animaux, insectes, présents sur la parcelle. Le fait de créer de nouveaux milieux avec notamment un effet lisière, c'est-à-dire des arbres, des arbustes, on va permettre d'héberger une faune qu'on va appeler auxiliaire, qui va pouvoir se nourrir, notamment dans des cas où il n'y aura plus de nourriture en hiver, etc. Donc il sera présent en permanence sur la haie et qui va pouvoir interagir avec les ravageurs qui seront sur la culture pour venir les dévorer et qui retourneront dans la haie pour s'abriter une fois que les ravageurs ont été détruits. Donc c'est comme tout dans la biodiversité, c'est-à-dire plus on a une mosaïque de milieux importante et plus on va favoriser la biodiversité. Le fait d'intégrer un nouveau milieu sur une parcelle, on va créer un nouveau milieu, donc voilà.
L'agroécologie, pour moi, c'est déjà s'appuyer sur les fonctionnalité d'un écosystème.
Marc Soboua, professeur au centre de formation agricole de la Gironde en viticulture et œnologie.
Et de les mettre à profit de façon à justement diminuer tous les intrants. Donc pour moi, ça c'est un peu ce qui est de l'agroécologie. Donc on va avoir une approche systémique du fonctionnement de l'exploitation. Et contrairement au bio, le bio, c'est uniquement un cahier des charges qui exclut tous les produits de synthèse et qui, par contre, ne fait pas d'approche systémique de l'exploitation. Donc, en bio, que vous ayez pas de haies, par exemple, que vous ayez un paysage de monoculture, vous êtes en bio, et voilà.
Plus le paysage de la vigne est homogène et aseptisé, plus le risque de vulnérabilité à certains ravageurs augmente.
Gauthier Wattel, chargé de mission Natura 2000 au syndicat du Moron.
Donc, l'idée, c'est d'impulser un peu un mouvement pour recomplexifier un peu tout cet écosystème, tout ce qui peut embêter. Hein. Après, effectivement, un viticulteur au quotidien, une haie, c'est quand même pas très pratique quand on veut faire tourner un tracteur. Pareil pour une mare, c'est quand même un certain nombre de choses qui... en analyse première, peuvent paraître contraignants. C'est pareil pour des rangs enherbés. Enfin, des rangs enherbés, il faut les gérer aussi. C'est peut-être plus simple, effectivement, d'avoir de la terre nue sous les vignes. Sauf que des rangs enherbés, avec tout son cortège floristique, son cortège d'insectes, des mares, des haies, des arbres, des vieux arbres dans la vigne, tout ça, ça va permettre aussi de recréer toute une chaîne d'espèces, hein, et d'interactions qui vont permettre aussi aux viticulteurs de réduire son risque de vulnérabilité face aux ravageurs. Mais c'est de dire, voilà, ça, c'est effectivement la chauve-souris, elle a une interaction, elle consomme du ver de la grappe. Et il n'y a pas que les chauves-souris, il y a aussi les oiseaux, il y a aussi plein de choses. Et c'est l'addition vraiment des différentes composantes environnementales d'un écosystème complexe et en bonne santé qui font qu'à un moment, le viticulteur, finalement, oui, il est moins sensible à certains ravageurs, oui, il peut se permettre de mettre moins de traitements, parce que son écosystème est suffisamment fonctionnel pour ça.
Donc si on doit parler de la viticulture de demain, pour moi c'est aller encore plus loin que le bio, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais, c'est essayer de dire, l'objectif à terme, c'est pas forcément le bio, l'objectif à terme c'est en allant encore plus loin, c'est de plus avoir à traiter les vignes. Le cuivre a toutes ses limites, y compris au niveau de
la ressource, hein.
Voilà, de la ressource d'un côté et de l'accumulation dans les sols de l'autre. Donc si on se place d'un point de vue vraiment durable, dire on fait de la viticulture durable, c'est pas en utilisant du cuivre, comme c'est pas en utilisant des produits phyto, donc c'est en essayant de trouver des systèmes qui sont encore plus novateurs, j'allais dire. Enfin, en soi, ça serait d'aller sur un vignoble résilient qui arrive à être plus tolérant avec les champignons, etc., et à mieux se défendre, ou à ce qu'on soit juste là pour l'accompagner, pour qu'il arrive à se défendre sans qu'on ait à utiliser des produits phytosanitaires. Mais ça, c'est peut-être une utopie.
Faire des vignobles plus petits et avec une main-d'œuvre quand même un petit peu plus intense qu'aujourd'hui, enfin, un peu plus importante qu'aujourd'hui, donc un réenchantement quelque part aussi de la profession. Ça, on a du mal aujourd'hui à trouver des saisonniers pour travailler dans la vigne, quoi. Donc, il faut peut-être aussi réenchanter, la profession de viticulteur et la mettre en avant, quoi. Voilà, c'est pas forcément évident. C'est un changement de paradigme, quoi.
C'est la fin de ce dernier épisode de la série Cépage. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux connaître le territoire viticole de la Haute-Gironde et les enjeux complexes autour de la réduction des produits phytosanitaires.
Cet épisode a été réalisé dans le cadre du projet Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcasts.